les podcasts de Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, des affrontements meurtriers opposent l'armée congolaise à une milice locale de la région du Kasaï central dans le centre de la RDC depuis septembre 2016. Des violences qui ont déjà fait plus de 200 morts en 6 mois. Des violences qui mettent en danger la situation sécuritaire et la stabilité de toute la région, mais aussi pourraient avoir des conséquences sur le processus de transition politique en cours à Kinshasa et les discussions entre le pouvoir et l'opposition au sujet du maintien du président Joseph Kabila au pouvoir. Qui sont ces miliciens de Kamwina et Nsapu dans le Kasaï? Que demandent-ils? Comment ces violences ont éclaté? Nous avons posé ces questions à Jean-Jacques Wando. Pour lui, il s'agit d'un rejet de l'État central congolais.
Cette escalade est arrivée suite à une réaction vraiment disproportionnée, l'usage de la force disproportionnée de l'État. Qu'est-ce qui a permis cette escalade? C'est le fait que les services de sécurité ont exécuté le chef coutumier Kamwina Nsapu. Nous sommes dans un Congo profond, un Congo traditionnel, un Congo coutumier, où l'autorité du chef coutumier reste une autorité quasi divine, donc sacrée. Or, il a été exécuté et on a exposé son corps nu devant ces sujets. Et c'était pour eux un sacrilège pour ces sujets. Ce qui fait que tous les sujets, surtout les jeunes qui étaient acquis à sa cause, on dit qu'il faut venger parce qu'ils ont touché le cœur de notre système, le cœur du fonctionnement de notre société. Et là, c'était quelque chose qui était inacceptable. Et c'est ça qui a expliqué que même des gens qui intellectuellement peuvent réfléchir ont soutenu cette insurrection.
Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces miliciens? Qu'est-ce qu'ils attendent de la part de l'État à travers ces actes de violence et cette insurrection?
Mais ceux qui contestent l'État, ils considèrent l'État comme étant un État étranger. C'est-à-dire que l'État n'a plus à jouer dans sa capacité d'offrir aux citoyens non seulement la sécurité, mais les besoins sociaux de base, et qu'il fallait un changement. Et pour eux, ce changement ne peut pas se faire par rapport aux autorités politiques actuelles, d'autant plus que la région a connu aussi au début... il y a quelques années de troubles en 2012 après les élections, il y a un certain colonel Tshibangu, et il s'est fait que les premiers éléments qui sont allés réprimer les manifestants, c'était des gens du régiment rwandophone, donc qui étaient unités de l'Est du Congo après le trouble avec le M23, vers le Kasaï. Et quand la population a vu que c'était ces éléments-là qui sont souvent identifiés à tort ou à raison de Rwandais, connaissant l'histoire tendue, les relations tendues entre le Rwanda et le Congo, les populations ont dit que voilà, c'était ici une invasion étrangère. De l'autre côté, il s'est fait que la région est assez riche en termes de ressources minières et en termes de terres arables. Et comme nous avons pu constater que certaines terres commençaient à être offertes à des multinationales chinoises et étrangères qui venaient s'implanter sur place, mais lui, en tant que chef coutumier, dans le droit coutumier, il demandait, exigeait à ce que chaque fois qu'on achète un lotissement de terrain, qu'il ait son mot à dire, il n'a jamais été concerté. Et du coup, il avait l'impression qu'on était en train de spolier ces terres et on était en train de d'occuper ces terres. Et du coup, je pense que de leur côté, ils ne voient pas les choses en termes de négociation avec le régime, mais plutôt en termes de mettre fin à ce système qui ne répond pas aux attentes des populations locales.
Parce que l'armée congolaise est, elle aussi, mise en cause pour leur excès de violence dans ces affrontements.
Normalement, les services de sécurité, quand ils agissent, ils doivent respecter trois principes cardinaux dans l'usage de moyens de violence. D'abord, le principe de légalité, c'est-à-dire qu'on peut réagir que si la loi le permet. Bon, on peut supposer que dans ce contexte où il y avait affrontement de deux côtés, l'autorité pouvait réagir. Il y a un deuxième principe d'opportunité. Ce n'est pas parce que quelque chose est légal, parce que c'est opportun de pouvoir réagir. Il n'y avait pas d'autre moyen alternatif de résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'ils aient le dialogue ou organiser une sorte de conférence régionale ou provinciale avec les autorités pour trouver un équilibre, parce que entre la cohabitation de l'autorité administrative et l'autorité coutumière. D'autant plus que les gens en face n'étaient pas armés, ils avaient des vieux systèmes de défense ou d'attaque, c'est-à-dire des armes blanches et parfois un ou deux fusils du 19e siècle n'étaient pas efficaces. Et en face, on vient avec des armes lourdes, des roquettes. Et le troisième principe, c'est le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que voilà, si l'opportunité de réagir se présente, mais il faut que la réaction soit proportionnée à la menace. Et les images qui ont circulé montrent que voilà, on abattait d'ailleurs des gens qui étaient pratiquement neutralisés. Et là même, on rentre dans des principes sacrés de ce qu'on appelle la guerre juste, hein, conceptualisée par Saint Thomas d'Aquin. Et c'est là que il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la réaction disproportionnée de la police et de l'armée. Et nous avons des indications que l'ordre a été instruit dans les instances les plus hautes. Quand je parle aussi d'un contexte politique, il faut dire que tout se passe au Kassai. Le Kassai, c'est le fief de Ken Tshisekedi, qui vient de mourir, le plus grand opposant. Je représentais quand même, pas une menace, mais il y a un homme politique qui faisait peur au régime. Ce qui fait que, dans ce contexte-là, le régime, craignant que le mouvement puisse prendre une ampleur vaste, a plutôt mené une guerre contre des personnes qui utilisaient des moyens rudimentaires. Donc il y a non-respect de beaucoup de principes, même en termes d'usage de la violence, mais aussi en termes du respect des prescrits et du droit international humanitaire. Et pour la suite, je pense que c'est un conflit qui est loin d'être résolu. Comme on a dit, ce n'est qu'une part, mais la même chose, on le voit, se déroule dans le Congo central avec d'autres habitants du Burundi, Congo. On a vu avec les émigrés à l'Équateur, on a vu avec d'autres groupes aussi au Katanga. Donc, si cette situation est mal gérée, ça risque malheureusement de faire des émigrés négativement ailleurs et embraser le Congo. Donc, il y a une forte responsabilité de l'autorité nationale de pouvoir bien réfléchir pour mieux gérer ce genre de situation.
Des violences qui se répercutent aussi sur le travail des journalistes locaux en RDC. Selon Reporters sans frontières, plusieurs ont été menacés de mort ces derniers jours par les militaires et les miliciens. Sosten Kambidi est l'un d'eux. Il est directeur de la radio-télévision chrétienne située à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Menacé directement par les soldats congolais après avoir diffusé des informations sur un massacre de plusieurs dizaines de miliciens de Kamuna Nsapu par l'armée début février, Sosten Kambidi a été contraint de quitter famille et amis pour se cacher. Il est actuellement protégé par l'Organisation d'Afrique centrale Journaliste en danger. Il nous livre son témoignage et son regard sur ces événements qu'il suit depuis le début comme journaliste.
Tout part de la semaine dernière lorsqu'il y a eu des affrontements dans la ville de Timbulu, ville située à 120 km de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Lorsque les miliciens ou des jeunes présentés comme miliciens appartenant au chef Kamuna Nsapu ont essayé d'affronter les forces de l'ordre dans la ville même de Timbulu. Sur place, plusieurs sources ont rapporté de massacres qui auraient été commis par les forces de l'ordre. Selon les sources de la Croix-Rouge, 84 jeunes présumés miliciens des chefs Kamuna Nsapu ont été abattus dans moins de 15 minutes et enterrés dans une fosse commune à 6 km de la ville de Timbulu. Alors, lorsque nous avons reçu ces informations, nous les avons rapportées sur notre radio, ce qui a mis un peu la hiérarchie militaire dans la région en colère. Ils ont estimé qu'on en faisait trop dans cette nébuleuse Kamuna Nsapu. Et pour la hiérarchie militaire, certainement que nous avions des sources au sein de l'armée qui nous fournissaient des informations avec un peu plus de détails. Grâce à certains organismes de défense de droits des journalistes, notamment journalistes en danger, j'ai réussi à quitter Kananga et là je me trouve en un lieu que je pourrais dire bien sûr.
Et d'autres de vos confrères aussi, journalistes, ont été comme vous menacés dans leur travail.
Il y a aussi le confrère Fabrice Fwamba qui lui travaille dans une radio communautaire sur place à Timbulu. Lui malheureusement a été menacé par des miliciens de chef Kamuna Nsapu, parce qu'il constituait une des grandes sources des médias. C'est lui qui nous fournissait de temps en temps des informations. Les militaires ont estimé qu'il en faisait trop. Ils sont allés par deux fois dans sa famille pour le chercher afin de le décapiter. C'était ça leur promesse. Dieu merci, journaliste en danger a réussi aussi à l'évacuer. Pour l'instant, il se retrouve très, très loin de la ville de Timbulu, loin de sa radio. À Kananga même, il y a aussi un autre journaliste de la radio Okapi, M. André Kambala. Il lui a été pris à partie verbalement par R60 du Conseil provincial de sécurité. Il lui a dit que la couverture que la radio Capi, c'est une radio onigienne, faisait de la situation qui se déroulait dans la province, cette autorité n'était pas d'accord.
Est-ce que vous continuez à faire votre travail de journaliste malgré cette situation où vous avez dû vous éloigner ?
Oui, je continue. Je suis vraiment connecté avec les réalités de ma province. Je continue à faire mon travail de journaliste. Je suis en train de penser que mon éloignement ne devrait pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire pour la province. Donc, je continue à faire mon travail de journaliste. Chaque jour, des contacts, des sources dans la province pour avoir les nouvelles et essayer de les relayer au niveau d'autres médias avec lesquels nous travaillons et préparer même des papiers à partir de là où je me trouve pour retourner à la rédaction de ma radio au niveau du Kananga. Donc, je n'ai pas cessé de travailler.
Et comment est-ce que vous, qui suivez depuis le début ces événements et qui couvrez encore aujourd'hui ces événements, comment est-ce que vous analysez, vous comprenez cet éclatement d'affrontements depuis ces derniers mois avec la milice aide de Nsapu ?
Lorsque les affrontements ont éclaté au mois d'août de l'année 2016, le chef coutumier Kamuina Nsapu avait accepté de se rendre à la MONUSCO, force de la MONUSCO. Donc la mission des Nations Unies à RDC. Mais malheureusement, son offre n'avait pas été acceptée. Les autorités avaient décidé de l'affronter et mort s'en était suivi. Il était mort, quelques-uns de ses partisans et quelques membres des forces de l'ordre. Depuis lors, la situation est devenue un peu pire dans la province parce que maintenant, il y a beaucoup de conflits de pouvoir coutumiers. Et dans chaque groupement ou dans chaque chefferie où il y a des conflits de pouvoir, les personnes frustrées essaient de se radicaliser, se rendent dans le territoire de Dibaya auprès de partisans des chefs Kamuina Nsapu et affrontent les forces de l'ordre. Donc, en dehors du fait que ce sont les jeunes ou les partisans de chefs Kamuina Nsapu qui affrontent les forces de l'ordre, il y a une sorte de soutien populaire qui semble se dessiner en faveur de la milice des chefs Kamuina Nsapu dans la région. C'est un peu ça le paradoxe. Tout le temps, lorsque ces miliciens surgissent dans une localité, ils sont applaudis par des jeunes, ils sont suivis par des jeunes, ce qui démontre qu'il y a une sorte d'adhésion populaire à cette milice. Lorsque nous avons cherché à analyser cette situation, il s'établit clairement qu'il s'agit d'une des frustrations que des populations ont accumulées depuis plusieurs années, et ces populations qui n'ont jamais vu une issue estiment que, à travers cette milice de chef Kamuina Nsapu, on pourrait voir le bout du tunnel. Voilà un peu la situation qui se présente. C'est une milice qui est en train de prendre des tentacules à travers tout l'espace du Kasaïen. Donc ce n'est pas demain ou après-demain qu'on pourrait trouver une solution à cette affaire, à moins que Dieu intervienne.
Justement, est-ce que l'État central donne de l'importance à ces affrontements et est-ce qu'il y répond, est-ce qu'il propose quelque chose pour y mettre un terme ?
Les autorités provinciales, à travers le vice-gouverneur de province, ont essayé de prendre des initiatives. Dernièrement, le vice-gouverneur du Kasaï central, M. Justin Milonga, avait procédé à la libération, je crois, en collaboration avec la justice, d'une cinquantaine des présumés miliciens des chefs Kamuina Nsapu. On a cru savoir que c'était un geste de bonne volonté et les autorités appellent toujours au dialogue, mais manifestement, les miliciens aujourd'hui semblent ne plus écouter la voix du dialogue et semblent s'être engagés à finir avec le pouvoir public.
Mais qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent ces miliciens du groupe Kamuina Nsapu ?
Alors, lorsque le vice-gouverneur a reçu en début de semaine une délégation de cette milice, un cahier des charges lui avait été transmis. Dans ce cahier des charges, la milice a imparti 15 jours aux autorités pour répondre à certaines revendications, notamment la levée de toutes les barrières des militaires dans le territoire de Dibaya, qui se trouve être l'épicentre de la milice, d'où cette milice est partie, la libération de tous les miliciens qui sont aujourd'hui détenus, et la milice dit vouloir en finir avec le gouvernement central, donc les autorités du gouvernement central. Les miliciens estiment qu'aujourd'hui, les assemblées provinciales n'ont plus de légitimité ni de légalité. Ils exigent la dissolution de toutes les assemblées provinciales à travers tout le pays. Ils ne s'arrêtent pas à ce niveau-là. Les miliciens pensent que le gouvernement, pour qu'il y ait de la paix, les miliciens exigent aussi la mise en application totale de l'accord signé le 31 décembre 2016, l'accord qu'on appelle ici en RDC l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà un pays, une affaire qui au départ était la revendication de la reconnaissance de chefs coutumiers. Aujourd'hui, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Les miliciens sont en train d'aller très loin avec leurs revendications. Ils estiment qu'aujourd'hui, ils ont assez d'arguments pour défaire le régime qui a Kinshasa. Voilà la situation. C'est là que nous craignons que cette situation ne puisse prendre beaucoup de temps avec tout ce que cela provoque comme dégâts collatéraux et tous ces morts qu'on enregistre parmi la population civile.
Est-ce que vous pensez que ces violences, elles peuvent avoir vraiment un impact sur le processus politique, comme vous le disiez, et sur le reste de la RDC ?
Difficile à dire, mais déjà les miliciens avaient enregistré fin janvier une sorte de demi-victoire parce que le Premier ministre Sami Badibanga devait venir à Kananga. Il avait annoncé, ses équipes d'avance étaient déjà sur place. Les miliciens avaient envoyé un message comme quoi ils empêcheraient le Premier ministre de descendre à Kananga. Ils ne peuvent venir que si il signait l'accord du 31 décembre. Effectivement, ils avaient réussi parce que le vendredi 27 janvier, le Premier ministre n'était pas venu à Kananga. Il y a eu des troubles. Les miliciens sont venus affronter les forces de l'ordre. Même à la tribune, là où le Premier ministre devait s'adresser à la population, le Premier ministre n'était pas venu. Ce qui démontre en quelque sorte que pour les miliciens, c'était une demi-victoire. Donc, ce n'est pas exclu peut-être que cette situation donne des ailes parce que maintenant, il y a trop de milices à travers le pays. À Kinshasa, vous suivez, il y a les Bougs du Congo qui affrontent le gouvernement central en pleine capitale. Au Kasaï, c'est Kamuina-Sapou. Dans l'ex-Katanga, il y a les Pygmées, les Bantous et les Twa qui s'affrontent. C'est toutes ces foyers de tension sont en train de démontrer à suffisance que l'autorité de l'État est mise à mal et que cela pourrait avoir une incidence sur le processus politique engagé au niveau de Kinshasa.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.